avec les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
On a une banderole, c'est marqué ben, « Go sport en grève ». On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme « ras-le-bol de la pression »,« les menaces
». On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir. Du Canu Info du vendredi 102.2.
De la situation. Donc, je représente alors, un rassemblement donc dimanche au Terreau contre la loi IVG. Ça sera notre premier sujet contre la loi IVG qui passe en Pologne. Et un petit rappel sur la situation là-bas. Ensuite,
ce sera un reportage sur la destruction de la ruche, un ancien squat des Pentes.
Ensuite, on vous parlera des armes de la police.
On ira voir après sur un sujet sur des personnes qui ont été mises à la rue à Villeurbanne il y a 2 jours.
Et Vauquier ne fait pas qu'expulser, il s'est aussi un fou du volant.
Et on vous fera ensuite un petit quiz intitulé « Les Républicains, le FN ou les deux ?»
Et en Lorraine, on ne dit pas un quiz, mais on dit un quiz. Et on parlera ensuite des gènes de l'intelligence.
Ensuite, on parlera d'un petit rassemblement en Moselle, gaz de schiste versus gaz de couche.
Et ensuite, on ira à Flamanville pour vous parler d'un week-end contre l'EPR.
On parlera après, ça sera encore moins drôle peut-être. Hein. C'est sur le drame qui se passe en Syrie, à Alep particulièrement en ce moment.
Et ben ensuite, on aura bien sûr les brefs du Kurdistan.
Voilà, et le traditionnel agenda, si on a le temps.
Youhou.
Capitale de la résistance, Lyon. Capitale de la résistance.
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante en résiste.
Alors, donc, à Lyon, ce dimanche 2 octobre à 18h, un rassemblement est organisé en soutien aux Polonaises qui se battent contre le durcissement de la loi sur l'IVG en Pologne. Donc si vous nous avez déjà écouté ou si vous avez écouté Radio Canu, je pense que vous en avez entendu parler. Ça fait des mois que en Pologne la loi pour l'IVG est menacée. En sachant que actuellement en Pologne l'avortement est déjà illégal depuis 1997, que les femmes polonaises elles peuvent avorter que dans 3 cas, un risque avéré réel pour la vie et la santé de la mère, une grave pathologie du fœtus ou si la grossesse fait suite à un viol. Et là, il y a une proposition d'initiative citoyenne qui a été déposée par le comité Stop Avortement. un regroupement ultra conservateur qui veut complètement interdire l'avortement à une exception extrême près, qui serait lorsque la vie de la femme enceinte est en danger immédiat. Voilà, et donc ça a passé la semaine dernière au Parlement. Et effectivement, c'est ça qui a été retenu, parce que en opposé, il y avait un autre texte qui était proposé, qui lui voulait libéraliser l'accès à l'avortement pour toutes les femmes sans condition jusqu'à 12e semaine de grossesse. Et ce texte-là, dès la première lecture, il a été définitivement rejeté, donc la semaine dernière. Et c'est l'autre texte qui a été gardé. Donc là, ils sont en train de travailler sur ce texte-là pour durcir encore plus l'IVG en Pologne. Donc ça fait depuis donc la semaine dernière, voire quelques mois avant, qu'il y a de nombreuses manifestations en Pologne, rassemblements, et aussi ici en France. Du coup, voilà, vous êtes appelés à venir à ce rassemblement, donc jeudi, dimanche à 18h, place des Terreaux, voilà, pour soutenir les Polonaises et pour redire que le combat pour l'accès à l'IVG pour tout le monde est encore un combat à mener aujourd'hui.
Excusez-moi. Je fais un reportage pour une radio locale, pour Radio Canu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ?
Vous levez les yeux, c'est marqué sur le panneau.
Canu Info. Reportage.
Excusez-moi, je fais un reportage radio sur ce qui se passe ici. Vous êtes du quartier par hasard ?
Non, je travaille juste, mais je découvre. En fait, je suis en train de remarquer une rue à la Croix-Rousse. Il y a une jolie maison décorée, artistique, avec un arbre, des fleurs... des vestiges de production, des mangeoires pour les oiseaux, un joli endroit. Et puis des gens qui démolissent, qui commencent à démolir, et je trouve ça très triste. J'imagine juste que c'est pour construire un immeuble moderne, que ce sont des promoteurs, enfin voilà, j'imagine que c'est juste ça. Et voilà, je trouve qu'il y a une vie qui va s'arrêter, une vie artistique, donc je trouvais que c'était un petit peu pénible à voir. Voilà.
D'accord, merci.
De rien.
Excusez-moi madame, vous êtes du quartier.
Est-ce que... J'ai connu la rue.
C'est quoi en fait ce bâtiment ?
Alors, ce bâtiment, c'est un ancien bâtiment de chapelier, il y a très longtemps. Ensuite, ce sont des gens qui ont fait des casquettes. Et ces gens, à un moment donné, ils ont voulu prendre leur retraite, donc ils ont voulu vendre. Ils n'ont pas trouvé, et la ville a racheté. Donc le terrain et la maison. Elle a essayé au départ de vouloir faire un parking. Mais comme le terrain est un terrain de la Croix-Rousse, c'est-à-dire, vous savez, des trucs avec des trous illuminés, quoi. Donc, c'était pas possible le parking. Donc, ils ont laissé tout ça en attente. Et moi, j'ai connu des jeunes squatteurs qui avaient envahi la maison. Et ils ont essayé de contacter la mairie pour leur dire, ben voilà, nous, ce qu'on veut faire de ce bâtiment... tout ce qu'on veut faire comme activité gratuite, presque, c'était à prix libre pour tout le quartier ou même les autres de Lyon, etc. Et ils n'ont jamais, jamais, jamais été reçus. Le jour où ils ont été reçus, c'est bien longtemps, plus d'un an après, et malheureusement, c'était déjà, à mon avis, beaucoup trop tard. Ce qui fait qu'en fin de compte, on leur a dit, bon, bah, écoutez, on étudie le problème, etc. Mais rien n'a bougé. Et par contre, un jour... on a eu un papier dans les boîtes aux lettres que la mairie allait démolir tout. Donc nous assistons à la démolition d'un bâtiment qui, à mon avis, hein, mais c'est mon avis propre, aurait très bien pu rester parce que je vois ces petits jeunes avaient vraiment amélioré et ils avaient vraiment fait des activités. C'était quelque chose qui pouvait être utile au quartier. Alors soi-disant, que c'était le terrain était donc pas constructible. Hein, c'était dangereux pour les gens. Et en fin de compte, ils vont quand même reconstruire un immeuble. Ils veulent aller plus vite, ils veulent je ne sais pas trop quoi faire, parce qu'on ne peut pas faire un truc de luxe ici. Le quartier s'y prête pas. Alors je ne sais pas s'ils sont prédisposés vraiment à mettre de l'argent pour des gens modestes.
Dernière remarque quand même, peut-être vous avez l'air de bien connaître le quartier. En bas, là, l'école des Beaux-Arts, apparemment, alors, l'école des... il y a des promoteurs. L'église là-bas, Saint-Bernard,
ouais, oui.
C'est la même chose.
Voilà. Alors,
est-ce qu'il y a une volonté de la mairie centrale de reprendre en main le quartier ?
Je pense. Moi, je suis un peu sur mon Internet. Il veut faire de Lyon quelque chose qui lui ressemble à lui, le maire. Quelque chose qui lui ressemble à lui. Et en somme, plus il pourra prendre la mainmise sur quelque chose pour que ça devienne un peu luxueux, enfin, vous voyez, un peu... bourgeois, quoi. Il faut rester dans les traditions lyonnaises. Eh ben, il ira jusqu'au bout, parce que de toute façon, rien n'arrête. Personne ne peut l'arrêter. On s'était adressé même à des élus pour essayer de lui expliquer. Rien. Il écoute que lui. Que lui, que lui, que lui. Je pense qu'effectivement, il a veut transformer Lyon en une ville plutôt touristique, de façon à ce qu'on dise que Gérard Collomb a fait de la ville de Lyon une ville qui est numéro dans. Ça, c'est mon avis.
Excusez-moi, je reviens vers vous. Ça va durer longtemps les travaux, vous pensez ? Pardon ?
Deux semaines.
Deux semaines ? Et tout va être rasé ou vous allez laisser des parties du bâtiment ?
J'ai rien à dire. Et vous voyez que la ville de Lyon, c'est le chantier de la ville de Lyon, c'est pas le mien. Donc vous voyez que la ville de Lyon. D'accord. Vous leur posez des questions à eux.
Ok.
Des quenelles tolérantes, des cervelles de canuts, la biennale quotidienne, la symbiose dans la rue, le sourire des Lyonnais dans les rues de Saint-Jean, la grandeur de Fourvière dans le cœur des enfants, le grand Lyon qui jaillit, qui ruisselle la chance, la beauté politique qui transcende la France. Les soirées endiablées des écoles de commerce, même un jour à Pardieu j'ai croisé Julien Lepers. Et je marche jusqu'à Perrache, c'est joli les immeubles, il y a des appartements avec de jolis meubles. Les gens aussi sont jolis, ils habitent Grand Lyon, un jeune couple sympathique avec un petit garçon. Les lumières qui danse en plein mois de décembre, la misère culturelle est vite réduite en cendres. Je me sens joyeux, tous les gens sont heureux, il y a des salles de spectacle vraiment de qualité. Ah, vraiment quel bonheur d'habiter le Grand Lyon, communauté de communes du grand Gérard Collomb. Ah, vraiment quel bonheur d'habiter le Grand Lyon.
Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est toujours le Canu Info du vendredi. Alors, de quoi on parle maintenant ? On parle des armes de la police. Parce que, alors, du coup, une petite introduction des armes de la police. Je voulais vous présenter un monsieur que j'ai découvert, qui s'appelle Philippe Meunier. Philippe Meunier, il est génial. Il est député de la 13e circonscription du Rhône. Et alors, lors de l'inauguration du poste de police municipale de Saint-Priest, il a demandé rien de moins que les policiers municipaux soient équipés d'armes automatiques. Donc, un truc où... C'est-à-dire que, voilà, les mecs, ils contrôlent les stationnements, et puis ils ont un FAMAS dans les mains. Et voilà, quoi, et tout le monde trouve ça normal. Mais alors, du coup, il ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a aussi demandé que les gardes de société de sécurité soient armés. Et puis, du coup, il justifie son idée. Alors, ça, c'est génial. Nous sommes dans une autre époque. Nous avons changé de société. Les années 70, avec la guitare et les cheveux longs, c'est terminé. En France, nous n'avons plus des enfants de cœur. Il faut les traiter comme ceux qu'ils sont. Donc, super. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Mais ce n'est pas la première fois que Philippe Meunier fait des siennes, parce que Philippe Meunier, l'année dernière, qu'est-ce qu'il avait demandé ? Il avait demandé que les députés soient armés pour leur propre sécurité. Donc voilà, quoi. C'est quand même un super monsieur.
Tu peux rappeler qui c'est, Philippe
Alors,
Meunier?
C'est Philippe Meunier, c'est le député de la 13e circonscription du Rhône. Donc voilà, il habite, je ne connais pas son adresse, mais bon, des fois qu'on connaisse son adresse, peut-être aller voir si sa sécurité n'est pas un peu en danger, on pourra voir ce qui se passe. Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, les armes de la police, ça fait penser que le 22 et 23 octobre, à Saint-Étienne, il y a desarmonslapolice.noblung.org qui organise un week-end d'infos et de lutte autour des armes de la police. Donc il y aura plus d'infos dans le Canu Info du vendredi prochain. Mais donc rapidement, pour vous dire, il va y avoir des débats, il va y avoir des conférences, il va y avoir une manif, et il va y avoir un FAMASTival. C'est un festival du FAMAS. Quoi.
Puisque le FAMAS était fabriqué à Saint-Étienne, jusqu'à pas longtemps. Je crois que ça a disparu de la circulation.
C'est parti, ouais. Le FAMAS, c'est fini. Mais t'inquiète pas, parce qu'à Saint-Étienne, il y a d'autres choses qui sont fabriquées. Et donc, du coup, bah, dans un contexte en fait, voilà, où la ZAD est menacée d'expulsion, où les migrants et les migrantes subissent les attaques quotidiennes à Calais ou ailleurs, que pendant le mouvement de la loi travail, il y a eu plein de blessés plus ou moins graves, et ben en fait, du coup, on se rend compte que les armes de la police, elles sont pas tellement à létalité réduite, et qu'effectivement, ils peuvent quand même nous faire un petit peu mal avec ça. Mais donc, on peut peut-être reprendre un petit peu de pouvoir sur les armes de la police. Comment ? Et ben parce que à Saint-Étienne, il y a l'usine Vernet-Caron. C'est au 54 boulevard Thiers.
Ça, on a l'adresse.
À Saint-Étienne.
Ça, on a l'adresse.
Alors, pour aller à Saint-Étienne, quand on est de Lyon, on prend le train, son vélo, sa voiture, on va jusqu'à la gare et ensuite on va jusqu'au 52 boulevard Thiers.
Il n'y a pas souvent de contrôleur sur la ligne des TER.
Et qu'est-ce qu'ils fabriquent à Vernet-Caron ? Eh bien, ils fabriquent les grenades de désencerclement. C'est eux qui ont inventé le flashball. Merci, Vernet-Caron. Et du coup, ils fabriquent aussi le flashball. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, un autre week-end ou dans la semaine, bah, suffit d'aller au 52 Montlevertière à Saint-Étienne. Et sinon, on peut aller le 22-23 octobre à Saint-Étienne.
Merci, merci. Et on va parler.
Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La même question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Et oui, droit au logement, parce que la trêve hivernale est bientôt là, et qui dit trêve hivernale dit grand retour des expulsions de logements squattés ou même des expulsions locatives. Et donc du coup ça a commencé ce mercredi matin à Villeurbanne, où une trentaine de personnes qui habitaient dans la rue Chaumel ont été expulsées à 7h du matin avec tout l'arsenal de flics possible, donc police nationale, brigade anticriminalité et compagnie, qui se sont rendus du coup voilà, 7h du matin devant le 15 rue Léon Chaumel à Villeurbanne. Donc l'immeuble était, je vous le donne en mille, une propriété du Grand Lyon, qui du coup a normalement pour obligation de loger les personnes sans abri. L'expulsion se passe au début dans le calme, mais du coup les policiers devaient s'ennuyer un petit peu, voulaient un petit peu utiliser leur flashball fabriqué par l'usine Vernet Caron, et du coup ils ont commencé un petit peu il y a personne qui les embêtait, mais du coup ils ont fini par choper dans un coin un jeune homme, ils l'ont plaqué contre le mur, lui ont mis un gros coup de pression, mais du coup grâce à la mobilisation de toutes les personnes présentes, l'agitation a un peu retombé, mais ils ont donc fait sortir tout le monde sur le trottoir, et les déménageurs ont embarqué tout le mobilier, toutes leurs affaires personnelles sont restées à l'intérieur. Et puis on a mis des belles plaques en métal Citex pour empêcher les gens surtout de revenir. Les gens ont demandé en fait du coup à la police s'il y avait une possibilité de relogement, quelque chose pour eux. Mais la police a répondu que eux, leur mission c'était le maintien de l'ordre et qu'après c'était la préfecture qui devait faire quelque chose. Donc la préfecture a rien fait. Les familles se sont rendues au CCAS, ont essayé d'obtenir quelque chose. Malheureusement, on leur a proposé d'appeler le 115. Donc pour savoir, le 115, c'est plus de 3000 appels par jour et c'est aucune réponse. Et du coup, quand on sait, c'est encore plus dégueulasse quand on sait le nombre de logements vides à Lyon. Donc il y en a au moins 20 000 qui sont vides à Lyon. Voilà. Donc notamment pas mal qui sont possédés par le Grand Lyon. Et les familles, ont eu d'autres choix que de sortir du CSAS. Et ça fait 2 jours qu'elles dorment devant la mairie de Villeurbanne. Donc on se rappelle qu'avant la trêve hivernale, c'est très souvent qu'il y a de plus en plus d'expulsions comme ça, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à la rue. Et du coup, on ne peut que vous conseiller de soit trouver des bâtiments vides qui appartiennent ou pas au Grand Lyon et de voir ce qu'on peut faire pour proposer des solutions de relogement.
Et il y a des sales types qui virent les familles des logements vides, et il y a également des sales types qui vivent et qui sont à la tête de notre région et qui roulent très vite. C'est notamment le cas de Monsieur Vauquier.
Et ouais, parce que Monsieur Vauquier, là, il y a 2 semaines, il a vendu toutes ses berlines, mais il lui en reste quand même 100 sur les 150 qu'il avait. Alors je vous rassure, c'est pas ses berlines à lui, c'est celle de la région, mais quand même, il en profite. Il utilise sa berline pour rouler sans être encadré par la police à 150 km/h au lieu de 110, ensuite sur une route qui est limitée à 90 à 138 km/h, et ensuite à 110 km/h sur une route qui est limitée à 70. Donc pour tout le monde, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'on prend une amende de 135 € et qu'on a 3 points sur le permis de conduire. De retirer, donc dans une seule journée, Laurent Vauquier aurait perdu 9 mois de permis et 3 fois 135 €, donc 450 €. Mais vous inquiétez pas, ça ne lui est pas arrivé. Et donc face à ce flagrant délit, parce qu'il n'y a pas de bol pour lui, il y avait des journalistes qui le suivaient. Donc, du coup, Vauquier répond « Non mais... » Non, ça m'étonnerait. Hein. Je crois que vous n'avez pas suivi le même itinéraire que nous. Hein. Je pense pas, non. Donc voilà, Wauquiez, il considère qu'il peut rouler super vite sur l'autoroute.
Il va vite, très vite. Sans doute pour aller retrouver ses copains les chasseurs, à qui il a laissé une très belle enveloppe dont on parlait dans le Canu Info de vendredi dernier.
Et voilà, on peut passer à la rubrique nationale. Qu'est-ce que vous en dites?
Allez.
Tout à fait.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. Nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Pardon,
encore les infos.
Mais oui, parce que normalement il y avait une super musique, parce que maintenant c'est le moment du quiz. Alors je la refais.
Mais elle est où la musique?
Elle est partie, la musique, elle est partie. Mince. Comme l'insert téléphonique, qu'est-ce que tu crois? Alors le quiz, le thème du quiz c'est FN ou les Républicains. Donc c'est des citations de personnes du FN
ou les
ou
deux.
Des Républicains, ou les deux, bien sûr. FN, les Républicains, ou les deux.
Mais ça ressemblerait pas à un vieux jeu télévisé.
Si. Mais du coup, si, chère auditrice, cher auditeur, tu veux participer, il suffit de nous appeler. On essaiera de faire marcher l'insert téléphonique. T'inquiète, on est chaud patate.
C'est t'inquiète. Alors, Dominique Farrugia n'est pas dans les studios, heureusement.
Alors, première question, est-ce que vous êtes prêts et prêtes?
Oui.
Ouais. Oui.
Alors, qui a dit... Il faut fermer les frontières, arrêter Schengen, arrêter la libre circulation. Le FN, les Républicains ou les deux?
Les deux. Républicains.
Les Républicains, bonne réponse.
Je suis trop fort.
Alors, deuxième citation, qui a dit Schengen ne fonctionne pas?
Le FN.
Ah, ouais, perdu, les Républicains. Non, alors, attention, celle-là, c'est dur. L'islamo-fascisme constitue... l'une des cinquièmes colonnes en France. Le FN, les Républicains ou les deux?
Le FN.
Perdu, les Républicains.
Oh,
Christian Estrosi qui raconte ça le 26 avril 2015.
Ouais,
et qui rajoute,
presque,
et qui rajoute, c'est une troisième guerre mondiale qui nous est déclarée. Attention, il y a un piège. Jean-Marie Le Pen est dans l'outrance systématique. Le FN, les Républicains ou les deux?
Le FN.
Le FN, oui, bravo.
T'es pas tombé dans le piège.
Il est pas tombé dans le piège.
Si ça taille Jean-Marie, c'est Marine, hein?
Alors non, c'est Florian Philippot.
Ah ben, ouais. Bon.
Voilà. Alors, nouvelle citation. Les ressortissants étrangers fichés S doivent être expulsés immédiatement.
Laurent Wauquiez. Les Républicains.
Les Républicains, le FN ou les deux?
Les Républicains
perdus, c'était les deux.
Ah mince.
Alors celle-là, les fichiers S, je préfère les emprisonner. Le FN, les Républicains ou les deux?
Les deux.
Non, les Républicains. Xavier Bertrand qui nous dit ça. Alors, fixer chaque année des quotas, référence pour l'ensemble de l'immigration légale. Le FN, les Républicains, les deux.
Le PS.
Perdu, mais aussi. C'était les Républicains.
Les trois.
Alors, sur ce port du voie intégral, il faut faire passer en délit dès qu'il y a récidive. Le Républicain, le FN ou les deux?
Les deux.
Non, les Républicains.
Alors, plus jamais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire les trois tout le temps maintenant.
Et alors, le FN, les Républicains ou les deux nous apprennent quelque chose avec leur grande analyse de la politique internationale. Donc ils disent, les réfugiés syriens ne sont pas persécutés par le gouvernement de Bachar el-Assad. Les Républicains,
ça
le
ressemble
FN,
au FN, ça.
Ah, bravo, c'est le FN, c'est Marine Le Pen qui dit ça et qui rajoute que elle pense que le Daesh est une composante de la stabilité du Moyen-Orient. Et alors attention, dernière question, il y a un piège. qui a... Le terrorisme ne détruira pas la République française, car c'est la République française qui le détruira. Le FN, les Républicains ou les deux? Piège.
Mickey.
Les deux?
Et non, c'est ouais, François
c'est...
Hollande.
Mais en fait, quand c'est ça, c'est un vrai piège, quoi.
Ah ben, j'aurais pu. Hein.
Ah mince. Et donc voilà, donc François Hollande, qui ne possédait peut-être pas les gènes de l'intelligence.
Alors parlons justement de ces gènes de l'intelligence. Ça existe ou ça n'existe pas?
Eh ben, en fait, c'est compliqué à définir. Parce qu'en fait, moi, j'avais envie de parler de ça, parce qu'il y a un blog là qui est paru par une psychologue qui a écrit Jennifer Delgado. C'est une psychologue. Espagnol et qui affirme dans son papier que l'intelligence serait principalement transmise par un petit nombre de gènes portés par la mère et donc transmise par la mère. Quoi. Que l'intelligence, si on est intelligent, c'est parce que notre maman nous a donné la faculté de pouvoir l'être. Donc en fait, ça m'a fait un peu réagir parce que c'est pas la première fois qu'on entend des simplifications comme ça en fait entre un lien entre un déterminisme génétique et un trait comportemental qui est souvent beaucoup plus complexe, qui peut pas être expliqué que par le déterminisme génétique. Et ça a été relayé par pas mal de médias français. Donc, bien qu'il puisse y avoir des déterminismes génétiques, même lorsqu'il peut s'agir de comportements, il s'agit de bien définir les termes et de savoir de quoi on parle quand on assimile un déterminisme comportemental. Donc génétique, un déterminisme, et l'intelligence qui est très difficile à définir, quelque chose de très complexe. En fait, on ne peut pas se baser que sur des capacités cognitives quand on parle d'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. C'est en interaction profonde avec des facultés émotives, affectives, et qui sont très très difficilement quantifiables, en tout cas qui font déjà entre eux des petits traits comportementaux. Donc c'est un assemblage de plein de traits de caractère, ce qu'on appelle l'intelligence. On pourrait le définir comme ça. J'aurais plutôt tendance, moi, à vouloir le définir comme ça, en fait. Après, on peut aussi se poser la question de ce que c'est qu'un gène, en fait. Donc, sans faire un cours de biologie, là, c'est pas l'objet, hein. J'en marre. En fait, le gène, c'est quoi? C'est juste une petite molécule, un petit morceau de molécule qui porte des informations, en fait. Et en fait, ce papier, il se base sur le fait qu'il y a des chercheurs qui aient dit, dans un échantillonnage, en fait, dans un protocole un peu douteux, que la plupart, en fait, de ces gènes, qui sont pas très nombreux d'ailleurs, c'est bizarre, seraient portés par le chromosome X. Le chromosome X qui est donné forcément au moins un des deux. Quand l'individu en a deux, c'est une fille. Il y en a un qui vient du papa, un qui vient de la maman. Donc il y en a forcément un qui vient de la maman. Donc ça serait pour ça qu'on dirait que ça. Donc en fait, le problème en fait que moi j'ai envie de pointer du doigt, on y vient, c'est que les gènes, en fait, ils sont en interaction entre eux. Les gènes, ils fonctionnent en interaction entre eux. Et aussi, vachement, ils s'expriment, ils donnent leur information en interaction très, très profonde, en fait, avec l'environnement au sens large. Donc, l'environnement, c'est ici, en l'occurrence, quand on parle d'intelligence, ça serait de l'apprentissage, par exemple, l'apprentissage. Toutes les relations affectives, émotionnelles de l'individu peut rentrer en interaction avec les soi-disant gènes de l'intelligence. Et d'autant plus que du coup ça fait un gros bazar difficile à déconstruire. C'est que au final, en plus, c'est faux. Ça a été démontré en 2015 que c'est faux de dire que c'est porté par le chromosome X. C'est parce que c'est quoi? C'est une étude en 2015 de la revue qui s'appelle Nature Neuroscience qui démontre qu'en fait il y a à peu près un petit peu moins de 1500 gènes qui sont répartis aléatoirement dans plein de chromosomes. Donc pas plus le chromosome X que n'importe quel autre chromosome. Donc en fait C'est une absurdité sans nom de dire que la mère transmet l'intelligence aux enfants. En fait, que ce soit la mère ou pas, c'est pas très important, mais c'est surtout qu'en fait, on entend beaucoup d'âneries en fait sur de liaisons entre d'un déterminisme génétique et un trait comportemental. Il y a quelques années, on se rappelle, c'était sous les années Sarkozy, on parlait peut-être des gènes de l'homosexualité. On disait beaucoup des simplifications comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un déterminisme génétique à être homosexuel ou à être délinquant? Il y avait des papiers là-dessus, il y avait des débats dans les médias qui étaient là-dessus, quoi. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire, et on peut absolument, en aucun cas, simplifier les choses comme ça. Donc voilà.
Merci pour ce petit point génétique. Sans transition aucune, on va partir sous la Terre et aller voir les gaz de couche. Okay. Qu'est-ce que sont les gaz de couche?
Alors en fait, je vais vous parler des gaz de couche. C'est un truc, parce qu'on parle beaucoup des gaz de schiste.
Ben oui.
Mais en fait, il y a un truc en France qui existe, qui s'appelle le gaz de couche, et son exploitation est autorisée. Et en fait, c'est la région de la Moselle qui est fortement touchée par ce type d'exploitation. Et le week-end dernier, donc le 25 septembre, il y a une cinquantaine de personnes qui sont rassemblées dans une ville de Moselle-Est pour dénoncer les dangers de ce type d'exploitation. Donc exploitation de gaz de couche. Alors qu'est-ce que c'est le gaz de couche? Donc parce que c'est un nom assez obscur, un peu comme le gaz de schiste. Donc ça veut pas dire grand-chose. Quand on parle de gaz de couche, on parle du gaz qui est piégé dans du charbon et qui est situé en couche profonde. Alors, couche profonde, ça veut dire entre 1000 et 4000 mètres, d'altitude, mais de profondeur. Donc, et faut voir ça un peu comme une espèce de grisou, mais pas dans les exploitations minières, mais du coup dans les couches de charbon profond. Donc voilà, et donc il y avait ce petit rassemblement pour dénoncer ce type d'exploitation. Pourquoi? Parce que l'exploitation est extrêmement proche, la technique utilisée est extrêmement proche de la technique dite, la fameuse technique de la fracturation hydraulique, qui est interdite, comme vous le savez très certainement, depuis 2011 en France. Et donc la fracturation hydraulique concerne, quant à elle, directement l'exploitation du gaz de schiste. Et d'ailleurs, les experts gaziers ne parlent pas de fracturation dans le cadre de l'exploitation du gaz de couche, mais de stimulation de la roche. Donc voilà, mais en fait, c'est la même technique. La seule différence, c'est que la technique, c'est injecter de l'eau dans les couches profondes pour la fracturer. Et là, la différence, c'est qu'on injecte de l'eau, donc c'est pas une différence, mais la différence, elle est, on met pas de produits chimiques dans l'eau qu'on injecte. Mais au final, il y a des tas de conséquences dues à cette fracturation qui sont indépendantes des produits chimiques qu'on injecte, qui sont notamment la création de fissures, le forage passe par les nappes phréatiques, donc il y a des risques que le gaz vienne polluer la nappe phréatique, etc. Donc voilà. Et alors, donc ces personnes-là étaient pour dénoncer en fait que c'est une exploitation qui est autorisée, alors qu'en fait elle met en jeu une technique qui est extrêmement dangereuse, polluante, etc. Donc à l'heure actuelle, il y a un total de 16 forages qui sont et c'est des forages qui sont autorisés pour des exploitations. Et je vais vous dire vite fait, brièvement, un petit mot sur qui exploite ces forages. C'est la société qui s'appelle j'ai oublié de noter le nom.
C'est pas Vernet-Caron des fois.
Non, c'est pas Vernet-Caron, mais c'est une société américaine. Je me retrouve un peu bête de pas avoir noté le nom parce que je m'en souviens pas. Mais en gros, ils exploitent la zone depuis 2006-2008, où ils ont fait plusieurs puits d'exploration pour ce type de gaz. Et à l'époque, donc où la fracturation hydraulique n'était pas interdite, ils mentionnaient officiellement qu'ils allaient recourir à ce type de technique-là. Et juste après 2011, tour de magie, ils ont effacé toute trace qui mentionnait cette technique. Et depuis, ils changent. Donc c'est un peu des filous parce qu'ils changent régulièrement de statut, de nom. Ils ont ajouté Française de l'énergie à leur petit nom américain pour que ça passe un petit peu mieux auprès des localités. Ils ont des dettes assez énormes hein, parce que c'est du genre du 26 millions d'euros. La technique a priori n'est pas du tout viable, etc. Enfin, en dehors de la fracturation hydraulique, qui est la technique que eux maîtrisent, mais qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Et donc voilà, mais ça les empêche pas d'obtenir des autorisations de forer des nouveaux puits un peu partout en Moselle. Et juste à titre, si j'ai retrouvé le nom, c'est European Gas Limited. je l'avais noté tout à la fin, je suis désolé. Et ben en fait, cette fameuse société prévoit de faire pas moins de 130 à 180 puits de forage de partout en Moselle et vous savez très bien la Moselle c'est pas extrêmement loin non plus de Bure hein, c'est un peu toute la région du nord-est ils sont très ils sont accablés par les projets de gaz de nucléaire etc. Et donc voilà, c'était pour vous rappeler qu'en fait le gaz de schiste est a priori interdit d'exploitation, mais il y a d'autres gaz qui sont exploités avec des techniques tout aussi destructrices, et celles-là sont autorisées. Donc voilà. Et maintenant, je parlais de nucléaire dans la région de Bure, mais on va se déplacer vers Flamanville, il me semble, puisqu'il y a des choses qui se passent dans pas très longtemps.
Ouais, tout à fait. Du coup, c'est un rassemblement le 1er et 2 octobre à Flamanville, donc c'est ce week-end. Et c'est contre le rafistolage des vieux réacteurs et la mise en service de l'EPR de Flamanville, donc du réacteur. C'est un événement qui est organisé par une vingtaine d'assos qui s'inquiètent des risques inhérents au nucléaire et au vieillissement des centrales. Et en fait, ces associations se sont regroupées en un collectif qui s'appelle Collectif Antinucléaire Ouest. Et du coup, sur la question du réacteur de Flamanville en particulier, on rappelle du coup qu'il comporte des nombreuses malfaçons, des pièces mal usinées par Areva, et qu'il ne dispose pas d'un certificat de conformité délivré par l'autorité de sûreté nucléaire, la SN. Et ça signifie qu'il n'est pas conforme à la directive européenne sur les équipements pressurisés. Mais en janvier, on rappelle qu'il avait eu une procédure dérogatoire d'autorisation de la part de l'ASN. Et voilà, ce qui fait que la construction continue, que tout continue, donc avec 6 ans de retard, ce qui a engagé énormément de frais supplémentaires, donc avec maintenant plus de 10 milliards d'euros qui ont été dépensés là-dessus, ce qui est 3 fois plus que ce qui était prévu à l'origine. Du coup, par rapport au rassemblement qui est prévu ce week-end, je vais vous lire le communiqué de Caen Ouest. Donc le CRIRAD, qui est le comité de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, alerte ce jour sur une consultation publique de projet de décret relatif à la protection sanitaire en cas d'accident nucléaire. Elle prend fin le 30 septembre. Les autorités françaises ont retenu des niveaux de doses annuelles incroyablement élevés, 100 fois plus en phase accidentelle et 20 fois plus pour la phase post-accidentelle qu'actuellement. Elle appelle à protester contre ce projet et souligne « Si les pouvoirs publics ne peuvent pas garantir un niveau de risque plus faible, il est impératif de mettre à l'arrêt les installations nucléaires susceptibles de conduire à cette situation. » Aussi, le collectif Antinucléaire Ouest appelle tous ceux et celles qui veulent arrêter le nucléaire avant la catastrophe pour ne pas vivre en zone contaminée, à protester contre ces niveaux de doses inadmissibles et à être à Flamanville les 1er et 2 octobre 2016. Non à l'EPR, non au rafistolage des réacteurs, arrêt du nucléaire, énergie de destruction massive. Voilà, donc vous pouvez avoir plus d'informations sur le site du collectif Caen Ouest et notamment la programmation, donc avec quelques concerts et puis beaucoup de conférences et de rencontres. Toujours sur le nucléaire, au-delà de la situation à Flamanville, il y a un rapport de Greenpeace qui est sorti hier pour dire que 55% des réacteurs nucléaires en France, donc 32 sur 58, comportent des pièces défectueuses, tout comme là-bas, et donc ne résisteraient pas à une surchauffe. Voilà.
On se fait un peu peur.
C'est parti sur l'international, alors. International, 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 international.
dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et l'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et donc Marine Le Pen nous dit que les Syriens, les réfugiés syriens ne subissent pas de répression de la part du régime de Bachar el-Assad, mais peut-être qu'ils en subissent d'autre part alors.
Alors oui, en Syrie, depuis la fin de la trêve, c'était une trêve qui avait été négociée entre la Russie, les États-Unis et le régime de Bachar. Cette fin de trêve devait commencer le 19 septembre, et depuis le 19 septembre, Alep, vous en avez sans doute entendu parler, la plus grande ville de Syrie, qui est située donc au nord du pays, dans une zone qui depuis 2011 était acquise aux rebelles anti-Assad, Alep est à nouveau en proie au bombardement. Mais alors peut-être, avant de parler d'Alep, est-ce que vous avez envie, vous ici et vous derrière vos postes radio, vous dans vos automobiles, dans les bouchons lyonnais, d'avoir un petit récapitulatif sur le conflit syrien? Dites-moi oui.
Oui, je pense que ce serait pas mal, oui, effectivement.
Merci. Parce que j'ai préparé, ça, c'est un peu bête que je le fasse pas. Donc le conflit syrien a commencé en mars 2011 dans le sillage du printemps arabe qui avait lui-même commencé, rappelez-vous, c'était en Tunisie, à l'époque où Michel Alliot-Marie demandait à Ben Ali si le savoir-faire de la police française pouvait servir à son bien-aimé tyran. Bref, printemps arabe qui va jusqu'en Syrie, et ce conflit syrien, cette révolution syrienne au départ se transforme petit à petit en guerre civile, en guerre également confessionnelle, impliquant une multitude d'acteurs locaux, notamment donc différents acteurs syriens, régionaux, avec notamment le Hezbollah au Liban, l'Iran, d'autres acteurs encore en sous-main, et avec des acteurs évidemment internationaux, les Russes, les Américains, les Français, évidemment. Ce qui laisse éclater au grand jour et au plus grand malheur des peuples et du peuple syrien toute la misère des impérialismes passés. L'impérialisme évidemment sur cette région du monde britannique mais aussi français, et leurs conséquences présentes. Près de 5 ans et demi plus tard, le territoire syrien apparaît morcelé, occupé par différentes factions armées dont les idéologies s'opposent. On trouve notamment les groupes islamistes radicaux, à savoir l'État islamique et le front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui affrontent l'armée du régime, l'armée de Bachar, qui est elle appuyée de son côté par des milices chiites de la région, les milices libanaises du Hezbollah, irakiennes et iraniennes, le grand pays chiite du Moyen-Orient. La Russie intervient donc militairement depuis fin septembre 2015, la Russie alliée donc de Bachar, si vous me suivez toujours, afin d'éviter la chute du régime de Bachar et de conserver ses intérêts en Syrie, qui sont nombreux, et notamment la base navale de Tartous, base navale qui est à 100 kilomètres du Liban et qui est une base navale russe en Méditerranée. Et ça les intéresse vraiment. Du coup, ils soutiennent Bachar, notamment pour ça. Elle soutient l'armée syrienne, tandis que les États-Unis appuient quant à eux des groupes rebelles syriens dits modérés, Et donc, au total, on pense qu'en l'été 2016, 280 000 personnes ont péri depuis plus de 5 ans. Ça, c'est les chiffres d'une association de défense des droits de l'homme au cours d'interventions militaires diverses, de fusillades, de tirs de mortier ou de frappes aériennes. Et l'ancienne place économique d'Alep et les environs de Damas sont les zones qui ont payé le plus lourd tribut au conflit. Plus de 6,5 millions et demi de personnes ont également fui le pays. C'est les fameux migrants dont on parle en Europe. Et presque autant ont été déplacés à l'intérieur du pays pour une population estimée au départ, avant le conflit, à 24 millions d'habitants. Donc je résume, 24 millions d'habitants, il y a déjà 6 millions de personnes qui ont fui le pays, 6 millions également, quasiment 7, qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, c'est-à-dire plus de la moitié de la population a été déplacée en Syrie, et 280 000 d'entre eux sont morts. Voilà pour le bilan de la guerre, j'accélère un petit peu. Alors justement, depuis la fin de la trêve, c'était donc le 19 septembre, Alep est à nouveau sous le feu du régime de Bachar et des avions russes. Aujourd'hui, à Alep, 250 000 civils sont piégés dans l'est de la ville, où les rebelles combattent les forces pro-Bachar. Les bombardements visent à anéantir la rébellion et à décourager la population. Et un médecin installé à Alep, observateur régulier pour les Occidentaux, dit que ce sont sans doute les frappes les plus dures à Alep de ces cinq dernières années. Bombardés, encerclés, affamés, pendant des mois, des années, sans discontinuer, jusqu'à ce que l'ennemi, à bout de force, décide de baisser les armes et d'évacuer les zones qu'il défendait. C'est la stratégie poursuivie par le régime syrien depuis 2011 pour mater l'insurrection anti-Assad. Une guerre d'étouffement lente et cruelle. Alors la technique a déjà un petit peu payé en 2016, puisque la ville de Daraya, en banlieue de Damas, a été vidée de sa population à la fin du mois d'août, et le quartier d'Al-Waer, en périphérie d'Homs, donc ville rebelle également, dont les combattants sont en cours d'évacuation. Alep Est, le fief des insurgés dans le nord de la Syrie, est une zone autrement plus grande et peuplée, pourrait elle aussi finir par hisser ce fameux drapeau blanc qui a été hissé ailleurs contre les forces de Bachar. Voilà, alors, l'aviation russe ces derniers jours, dernières semaines, est accusée d'avoir employé pour la première fois des bombes performantes, dites Bunker Buster, destinées à détruire des infrastructures souterraines. Donc des bombes extrêmement puissantes. Pour l'instant, l'essentiel de la stratégie russo-syrienne vise à donc à casser des infrastructures civiles d'Alep Est. La salle des urgences de l'hôpital Omar Ben Abdelaziz, qui était construite justement sous terre, a par exemple été détruite dans un récent bombardement, donc sans doute mené avec ces mêmes armes. Et vendredi, deux des quatre casernes des casques blancs chargées des premiers secours avaient été pulvérisées. C'était vendredi dernier. La station d'extraction d'eau de Bab el Neirab, qui permet de fournir de l'eau au quartier d'Alep Est, a également été mise hors service. C'est peu vous dire que la situation donc, des 250 000 civils est plus que difficile. Voilà, j'accélère un petit peu. Et donc, on peut dire que si vous avez envie de manifester votre hostilité à ces bombardements, il y a des manifestations demain un peu partout en France. Et à Lyon, c'est notamment à 17h, place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. Et on rappellera également, puisqu'on parle du conflit syrien, pour l'occasion que la France continue de bombarder les territoires où Daesh est installé, principalement à l'est de la Syrie, sans qu'on en parle vraiment dans les médias mainstream, pas vraiment non plus ici, parce qu'évidemment, il faut continuer à dénoncer les sales bombardements russes, et les médias français s'y emploient souvent. C'est beaucoup moins le cas des bombardements français qui ne manquent sans doute pas de tuer des civils eux aussi. C'est aussi ça la guerre, une information partiale et partielle. Voilà pour ces bombardements sur Alep.
Et donc, ce qui se passe en Syrie se passe aussi au Kurdistan. Donc c'est maintenant le moment des brèves du Kurdistan.
Les affrontements entre les Peshmerga du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, PDKI, et du Komala, et le régime de la République islamique d'Iran continuent. Les forces armées iraniennes bombardent actuellement les positions des combattants et combattantes kurdes. En réponse, les Peshmerga du PDKI ont tué près d'une douzaine de soldats iraniens le 24 septembre dernier, qui organisaient un raid à Piranshahr. Au Bakour, Kurdistan du Nord, en Turquie, la répression exercée par l'État turc ne cesse de s'intensifier. 31 régions du district de Dersim, Tunceli, ont été déclarées zones interdites par l'armée turque. Le commerce de Şirnex, ville toujours sous les attaques de l'armée turque, a été arrêté. La commerce de Cizre, Leyla Imret, élue avec plus de 83% des voix en 2014, a été démise de ses fonctions par le gouvernement turc. Dans une déclaration, elle a cependant affirmé qu'elle continuera à exercer sa fonction en dépit des menaces du Parti de la Justice et du Développement du président turc Recep Tayyip Erdogan et a demandé au peuple kurde de ne plus se rendre à la mairie actuellement militarisée par le régime turc. À Şirnex toujours, un détenu est mort dans la prison après s'être révolté contre la guerre menée par l'État turc au Kurdistan. La ville de Nisebin est quasiment rasée après les attaques menées par les forces armées turques dans le cadre d'une opération dite antiterroriste, opération qui s'est étalée sur 82 jours. Dans le quartier de Kanika notamment, les habitations y sont entièrement détruites. La semaine dernière, le gouvernement turc a saisi de force la mairie de Nisebin. La répression se poursuit également dans le domaine médiatique. La police a mené un raid sur le local de la radio Dunia, signifiant monde, à Adana. L'AKP, du président Erdogan, a suspendu par décret de loi 10 chaînes de télévision, parmi lesquelles la chaîne kurde Digital News Agency, pour la 46e fois. Enfin, trois artistes du groupe Group Çelik ont été arrêtés par la police turque en civil lors d'un mariage, une fois les invités partis. Ils sont actuellement placés en garde à vue, car il leur est reproché d'avoir réalisé de la propagande pour organisation terroriste en chantant trois morceaux kurdes. L'IHD a réalisé un bilan qui établit aujourd'hui qu'en 50 jours, près de 40 000 gardes à vue ont eu lieu, 20 000 incarcérations, 80 000 fonctionnaires ont été démis et démises de leurs fonctions, 45 journaux, 24 radios, 18 canaux de télévision et 3 agences de presse ont été fermés, 100 journalistes ont été placés en garde à vue, 37 incarcérés et 28 mairies ont été mises sous tutelle. En réponse à ces attaques et à cette répression, la guérilla du PKK, les HPG, Forces de défense du peuple, ont tué 31 soldats turcs sur la route principale menant entre Şırnak et Van et mènent des actions de sabotage contre les postes de police à Şırnak. Sur un plan diplomatique, la délégation du Parti démocratique des peuples, le HDP, s'est rendue à Soleimaniye au Bashur, Kurdistan du Sud, en Irak, pour rencontrer Jalal Talabani, leader du Parti de l'Union patriotique du Kurdistan, deuxième parti de la région autonome. L'objectif de cette rencontre a été de rappeler la nécessité d'une solidarité entre les différents partis kurdes et de relancer le projet de congrès national kurde avec la participation de tous les partis. Idée qui avait été proposée dans le passé, mais qui n'a jamais vu le jour. Pour évoquer quelques notes positives, Saniye Ekti, une femme kurde de 76 ans qui avait été arrêtée le 24 septembre dernier pour avoir refusé de donner à boire à des soldats turcs et pour avoir affiché chez elle les couleurs kurdes jaune, rouge et vert, a été libérée dans la nuit du 25 septembre. Le 24 septembre dernier a eu lieu également un rassemblement des maires du samedi, Cumartesi Anneleri, à Istanbul et repris dans d'autres endroits du monde comme à Paris pour leur 600e semaine. Depuis 1995, en effet, elles se rassemblent chaque samedi midi sur la place Galatasaray à Istanbul dans l'objectif de demander vérité et justice pour les proches enlevés et exécutés par l'État turc. De l'autre côté de la frontière, les femmes de Şengal, situées dans les monts Sinjar, dans la province de Ninive en Irak, se sont organisées hier pour créer le mouvement des femmes yézidis libres.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Bon. Voilà, c'était alors, encore une fois sans transition. Donc, dans l'agenda, ce soir, en ce moment même, c'est la rentrée à l'atelier des Canulars. Et c'est apéro-concert avec Antidaté, un duo rock voyageur. Ça a commencé depuis 18h30, c'est jusqu'à 22h, et c'est au 91 rue Montesquieu.
Et sinon, ce soir aussi, il y a un concert au Ground Zero. Mais donc, du coup, si vous n'avez pas trop fait la fête cette nuit, demain, vous pouvez vous réveiller assez facilement. Je vous propose un rassemblement à 15h. Donc ça va, à 15h. Mais alors, pourquoi ce rassemblement? C'est parce que le GUD, le groupe Union Défense.
Bah,
et voilà, c'est pareil. Eux, c'est pas tes potes, a priori. Du coup, voilà, c'est une organisation d'extrême droite, nanani, nanana, fasciste, nanani, nanana, qui du coup, au-delà du fait que c'est une organisation Dark des Ténèbres, elle veut ouvrir un bar. Parce qu'elle est Dark des Ténèbres, comment il va s'appeler ce bar? Il va s'appeler le Pavillon Noir. Et donc, bien joué, voilà, quoi. Ils reprennent un petit peu des symboles. Enfin, voilà. Et du coup, ils voudraient faire un petit peu de cet endroit un lieu de propagande. Ça va être sur la presqu'île. On n'a pas encore, on ne sait pas encore exactement où c'est. Et du coup, ça serait le nouveau cœur en fait de leur conquête un peu de Lyon, quoi. Après le Saint-Jean, ils vont s'attaquer au reste de Lyon. Et du coup, bah effectivement, en ce moment, ils se sentent tranquilles, quoi. Enfin, du coup, ils peuvent y aller, quoi. Tout le monde parle comme eux. Tout le monde a des propos réactionnaires. Tout le monde a des propos racistes, islamophobes, sexistes. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ils sont comme des dingues. Et du coup, la mairie de Lyon, bah, pour l'instant, on fait rien du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, à Lille, il y a aussi le GUD qui a ouvert un bar et qui, malgré l'hostilité
des gens
des gens autour qui étaient pas contents. Ce bar, bah, du coup, c'est super, il est réservé aux blancs à Lille. Et du coup, continue à exister. Donc, du coup, demain, donc le 1er octobre, samedi, un rassemblement à 15h devant l'hôtel de ville en face de l'opéra pour réclamer la fermeture de ce bar.
Demain, toujours à 19h, c'est le pot de rentrée de la librairie La Griffe. C'est donc 5 rue Sébastien Griffe. Dimanche, et on vous l'a dit en tout début de ce Canu Info, il y a le rassemblement à 18h place des Terreaux en soutien aux Polonaises qui se battent contre le durcissement de la loi sur l'IVG en Pologne. Lundi, on vous rappelle qu'il y a les cours de langue à la Plume Noire de 18h à 20h. La permanence juridique de soutien aux sans-papiers à la Lutine de 18h30 à 20h. Ensuite, mardi, le collectif d'entraide à la rédaction de Rébellion invite celles et ceux qui s'intéressent à la photo, à l'écriture, à l'audio ou à la vidéo à le rejoindre. Et ça, c'est de 19h à 23h à la Lutine.
C'est rue Montesquieu, c'est ça ?
Eh oui, c'est juste à côté de l'atelier, là où il y a une soirée ce soir. Mais du coup, jeudi, il y a un nouveau procès en fait contre les manifestants et les manifestantes de la loi travail. Parce que donc la personne qui avait été arrêtée le 11 mai suite à un rassemblement contre la loi travail, voilà, avait été accusée d'avoir participé à la manifestation du sauvage du 10 mai. Je vous rappelle, c'est la manifestation sauvage du 10 mai, c'était celle qui était partie de la place des Terreaux contre le 49-3. Donc elle serait accusée.
Elle était bien celle-ci.
Elle était bien.
Elle était vraiment bien.
Ouais. Celle-là, ouais, elle était bien, mais du coup, elle était tellement bien que cette personne est accusée d'avoir jeté un caillou sur un poste de police.
Et du coup,
elle a été sévèrement condamnée. Alors du coup, quand je dis sévèrement, c'est quand même pas mal. C'est 6 mois de sursis. 6 mois de sursis, ça fait beaucoup, mais surtout, c'est 14 000 euros d'amende. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Voilà, parce qu'effectivement, le poste de police municipale de Lyon 1er a vachement besoin d'avoir des vitres blindées toutes neuves. Du coup, en fait, c'est vraiment un truc où on fait porter toute la responsabilité de cette histoire, de cette manif et toute cette colère un peu côté collectif, quoi, sur la tête de cette personne, et qui, du coup, va servir d'exemple. On va vraiment servir de fusible, en fait, quoi. Voilà, qu'on va tout mettre sur son dos de façon à ce que ça recommence pas. Mais du coup, ce procès avait été, et du coup, le procureur a trouvé que ça suffisait pas. Donc, du coup, il a fait appel et il y a un nouveau jugement qui aura lieu le 6 octobre, donc c'est jeudi, donc il y a un rassemblement à partir de 13h au tribunal qui est du coup au palais de justice, en fait, des 24 colonnes là dans le vieux Lyon. Et donc, c'est à 13h. Donc voilà, c'était le Canu Info du vendredi soir.
Surtout,
n'oubliez pas,
ne paniquez pas,
niquez tout.
Et maintenant, Noise Pollution.